السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Donc la fois dernière, on s'est arrêté dans la vie du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم à la bataille de Uhud. Et on a expliqué que lorsque les deux armées se sont fait face, il y a d'abord eu une première étape d'intimidation de part et d'autre, qui s'est exprimé à travers plusieurs choses dans les deux camps. Tout d'abord, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude d'intimider le camp d'en face, déjà dans sa façon d'organiser son armée. Les musulmans, les soldats musulmans, les compagnons étaient rangés côte à côte et on les voit, il y en a droit. Et c'est toujours impressionnant quand on a en face une armée, certains sur des montures, d'autres par terre, d'autres... Ce n'est pas la même chose. Entre l'ordre et le désordre. Même si on a expliqué que les musulmans étaient trois fois moins nombreux et beaucoup moins armés et expérimentés dans la guerre. Ensuite, on a expliqué que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a proposé son épée. Et il a dit « Man ya'khudhu hadha as-sayf bihaqqihi ?»« Man ya'khudhu hadha as-sayf bihaqqihi ?» Qui acceptera de prendre cette épée avec son droit ? Donc c'est l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui d'entre vous accepte de la prendre ? Mais attention, celui qui la prend, il faut savoir qu'il aura des devoirs envers cette épée et que cette épée elle aura des droits envers la personne qui la détiendra. Et on a vu que plusieurs compagnons, et en particulier Zubair ibn al-Awwam, radiallahu anhu, a voulu la prendre, mais le professeur sallam ne leur donnait pas. Jusqu'à ce que ce soit le compagnon Abu Dujana, Simak ibn Kharasha, radiallahu anhu, qui s'est levé et qui l'a dit « Ana akhudhuhu bihaqqihi ya Rasulallah, fama haqquh ?» Moi, je la prendrai avec son droit, le droit qu'elle a sur moi, alors indique-moi quel est son droit. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Allah taqtula bihi musliman wa la tafirra bihi an kafir » que tu ne l'utilises pour tuer aucun musulman, personne de ton camp, et que si un ennemi se retrouve face à toi pendant cette bataille, l'honneur qu'exige cette épée, c'est que tu ne fuis pas. Avec cette épée, quand tu l'as entre les mains, tu ne dois pas fuir. Tu restes devant lui et tu combats jusqu'au bout. Et après ça, Abu Dujana, il a pris son fameux bandeau rouge qu'il a attaché autour de la tête. Et Zubair ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, qui nous explique et qui nous décrit la scène, il dit, quand Abu Dujana faisait ça, c'est qu'on savait qu'il allait aller jusqu'au bout. Quand il mettait le bandeau rouge, khlas, yani on disait, ça veut dire qu'il va combattre jusqu'au bout. Et il a commencé à se pavaner, selon certaines versions, sur une monture, selon d'autres versions, à pied, plein d'orgueil, avec l'épée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et devant l'armée, de façon à être bien visible face aux idolâtres. Et le professeur Hassem, c'est à ce moment-là qu'il a dit, ce genre de démarche, parce qu'elle était orgueilleuse, il le faisait avec fierté, avec orgueil, et l'orgueil en islam, c'est interdit. Le professeur Hassem a dit, ce genre de démarche est interdite, est détestable, sauf dans ce genre de situation. Parce qu'ici, la fierté, ce n'est pas une fierté mal placée ou juste par un orgueil profond, c'est pour impressionner l'ennemi. Parce que, comme le disait le professeur Hassan, al-harbu khud'a, la guerre est en grande partie une tromperie. C'est-à-dire, la guerre, avant de se gagner sur le terrain, face à face, elle se gagne dans le moral. Faire croire à l'ennemi qu'on est plus puissant, qu'on est plus fort, qu'on a préparé des pièges, afin de faire peur à l'ennemi et que peut-être, il n'y aura même pas besoin de livrer bataille, il n'y aura même pas besoin de blesser des gens ou de tuer des gens. Ils vont avoir peur, ils vont partir. Naam. Mais le camp d'en face aussi, ils sont dans cet état d'esprit et ils essayent eux aussi d'intimider en face. Et on a vu, ils ont ramené avec eux des femmes. Les femmes de leurs chefs, des notables, sont là. Et celle qui est à la tête de toutes ces femmes, c'est Hind bint Utba, radiyallahu anha. Parce que même si à cette époque-là, comme on l'a dit plusieurs fois, elle est idolâtre, plus tard, elle va se convertir à l'islam, donc il n'en demeure pas moins quand on parle d'elle, on dit radiyallahu anha. Et elles font des poèmes. Elles s'adressent aux Bani Abdiddar. Les Bani Abdiddar, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la tribu qui s'occupe de prendre l'étendard. Waïha Bani Abdiddar, Waïha Humat al-Adiyar, Darban Bekulli Battar. Ô vous les Bani Abdiddar, Waïha Bani Abdiddar, Waïha Humat al-Adbar. Ô vous qui protégez nos arrières, Darban Bekulli Battar. Frappez fermement avec tout ce qui est aiguisé, toutes vos épées, vos lames, vos lances, frappez avec. N'hésitez pas. Et Abu Soufiane va même venir voir les Bani Abdiddar et va leur dire « Nous avons perdu la bataille de Badr et en réalité, c'est à cause de vous. Parce que c'est vous qui avez la responsabilité de l'étendard. Et quand on gagne, c'est grâce à ceux qui portent l'étendard et quand on perd, c'est à cause de ceux qui perdent l'étendard. » Pourquoi il leur dit ça, Abu Soufiane ? Pour les galvaniser, pour les toucher dans leur orgueil et dans leur fierté. Et eux, ils disent, Abu Soufiane leur dit « C'est à cause de vous qu'on a perdu à Badr. Alors l'étendard, vous ne le méritez plus. Donnez-le nous. On va mieux s'en occuper que vous. » Mais eux, ils disent, jamais de la vie. Et aujourd'hui, tu vas voir qui est-ce qui va s'occuper de l'étendard. Et ça, il le fait donc. Il prépare son camp, mais il le fait aussi devant les musulmans pour intimider les musulmans, pour leur montrer, attention, on va se battre jusqu'au bout aujourd'hui. Ce ne sera pas comme à Badr. On est venu pour se venger de Badr. Et ensuite, Abu Soufiane se rend devant l'armée des musulmans, il s'adresse à eux, il leur dit, ô vous, les gens de Médine, les compagnons du professeur, il s'adresse aux compagnons du professeur sallam qui sont de Médine, l'Ansar. Il leur dit, ô vous les gens de Médine, nous n'avons rien contre vous. Notre problème, il va leur dire notre problème est avec notre cousin, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de nos cousins de la Mecque, ceux qui sont les compagnons de Muhajiroun, ceux qui ont fait le hijra à Médine. Alors, retirez-vous de cette armée et nous nous engageons à ne vous faire aucun mal et à ne pas venir raser la ville de Médine. Puisque leur objectif premier, c'était de raser la ville de Médine et tout ce que la ville de Médine contient. Mais évidemment, ils vont refuser. Et ensuite, il va envoyer Abu Amir al-Fasiq, un Médinois qui était tout d'abord hypocrite et qui ensuite va ouvertement montrer son hostilité au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui va se réfugier à la Mecque. Et qui était un ancien chef de la tribu des Haous. Et il va dire à Abu Soufiane, quand on fera face à l'armée des musulmans, laisse-moi parler à mon camp, la tribu des Haous de Médine, et tu verras qu'ils me suivront, ils vont m'écouter. Et donc Abu Soufiane, il va lui dire, tu m'avais promis, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et il va s'adresser à l'armée des musulmans, et qu'est-ce qu'il va dire ? Il va s'adresser à son camp. Il va dire, vous les Médinois, et en particulier ma tribu, la tribu des Haous, est-ce que vous me reconnaissez ? C'est moi, Abu Amir al-Rahib. Parce que lui, ceux qui étaient de son côté, ils le surnommaient al-Rahib. Si on traduit littéralement, ça veut dire le moine. Mais c'était une façon de lui donner de l'honorer, de montrer ses qualités. Un homme de bien. Abu Amir al-Rahib. Mais le professeur Hassan l'avait surnommé depuis son hypocrisie et son hostilité ouverte. Et sa trahison, le professeur Hassan l'avait surnommé Abu Amir al-Fasiq. Abu Amir le corrompu. Et donc les compagnons lui ont répondu « Bal anta Abu Amir al-Fasiq wa lasta birahib. » Tu es Abu Amir le corrompu et tu n'es pas Abu Amir le moine. Et donc là, il comprend que ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc il retourne, et il va voir Abu Sufyan et il dit « Laqad asaba qawmi min ba'di shar. » Il est arrivé un mal a atteint mon peuple depuis que je les ai quittés. Je n'ai plus, j'ai plus d'autorité sur eux. Khlas, ils ne m'écoutent plus, ils ne m'obéissent plus. Ensuite, les Bani Abdiddar vont commencer les duels. Ceux qui portent l'étendard, la tribu des idolâtres qui portent l'étendard, ils vont commencer les duels. Et on a dit en quelques instants, tellement ils voudront garder l'étendard haut, en quelques instants, 11 personnes des Bani Abdiddar vont perdre la vie. Ils vont provoquer en duel les musulmans, donc des tête-à-tête, pour honorer l'étendard et pour garder l'étendard haut. Et à chaque fois, ce sont les musulmans qui ont le dessus. 11 personnes à la suite en quelques instants. Le premier, Talha ibn Uthman contre Ali, radiyallahu anhu. L'étendard tombe. Ensuite, il y a Siba ibn Abdel Uzza qui vient provoquer en duel. Et c'est le compagnon Hamza ibn Abdel Muttalib, radiyallahu anhu, qui lui répondra. Etc. On les a cités les 11 plusieurs fois. Je ne vais pas revenir dessus. Et ensuite, on a parlé la semaine dernière du premier compagnon, Afwan, qui est mort, puisque après ces 11 duels, les deux armées, elles s'attaquent. Les deux armées, elles s'attaquent. Là, c'est l'attaque générale. 3000 personnes parmi l'armée des idolâtres contre 700 musulmans. Et les musulmans, ils sont là, ils ne se sauvent pas. Et encore, dans les 700, on peut enlever les 50 archers qui ont été désignés pour être sur le mont, la colline des archers, pour protéger le flanc et l'arrière de l'armée. Parce qu'il y a la cavalerie, on en avait parlé, la cavalerie idolâtre qui est à la tête de laquelle il y a le compagnon Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, mais il n'est toujours pas compagnon à cette époque-là, il est encore idolâtre. Et il est à la tête de cette cavalerie et il se prépare à essayer de passer derrière la colline. Et justement, les archers sont là pour l'en empêcher, pour protéger l'armée des musulmans. Donc finalement, l'armée des musulmans qui est face aux idolâtres, il n'y en a plus que 650. Et on a vu la semaine dernière donc que le premier compagnon à mourir, c'est Abdullah ibn Amr ibn Haram, radiyallahu anhu. Et qui était lui-même le père d'un compagnon très connu et fidèle au prophète Mohammed, c'est Jabir ibn Abdullah. Et ce premier compagnon à mourir, lui-même le pressentait. Puisque la veille, pendant la nuit, la veille au moment de son départ, il appelle son fils Jabir ibn Abdullah et lui dit « Je pars avec l'armée des musulmans pour la bataille de Uhud. « Wa ma arani illa maqtoulan min fi awwali man yuqtalu » min ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense que je serai parmi les premiers à mourir parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas une personne que j'aime autant sur terre après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que toi, mon fils. Je te confie tes sœurs, parce qu'il avait que ce fils et il laissait que des filles en bas âge, je te confie tes sœurs. Et je te confie mes dettes. Il avait des dettes. Non. Et en effet, ce hadith, qui a été authentifié, comme on l'a dit la semaine dernière, il nous dit qu'il va être le premier à mourir à Uhud. Subhanallah. Son pressentiment s'est réalisé. Non. Et ce ne sera pas simple à vivre pour Jabir ibn Abdullah. D'abord parce que il perd son père et son père lui laisse, comme il lui a lui-même dit, des filles en bas âge dont il doit s'occuper, qu'il doit entretenir, qui vont être à sa charge. Et lui, c'est juste un jeune homme. Et les dettes. Et en plus, par-dessus tout, quand il récupère son père, Abdullah ibn Amr ibn Haran, son corps a été mutilé par les idolâtres. Comme on le verra, les corps des martyrs musulmans vont être mutilés par les idolâtres. Naam. Mais ça, on reviendra dessus quand on fera cette partie. Et au début de la bataille, il va aussi se passer, et c'est là où on s'était arrêté, le face-à-face entre le compagnon Hanzala ibn Abi Amir, radiyallahu anhu, et le chef de l'armée idolâtre, Abu Sufyan ibn Harb. Hanzala ibn Abi Amir, il faut rappeler qu'il est le fils de celui dont on a parlé tout à l'heure, Abu Amir al-Fasiq, Abu Amir le corrompu. Parce que même si lui était un hypocrite et ensuite un ennemi ouvertement hostile au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans, son fils était sincère et il était un des compagnons les plus fidèles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut essayer de se rappeler de la difficulté, de l'épreuve que ses compagnons ont à vivre, ses compagnons qui sont déchirés entre leur camp, leur conviction, leur religion, et en face, voir leur père, leurs frères, leurs cousins, leurs voisins, leurs amis d'enfance, qui sont devenus leurs ennemis. Et ils sont face à face. Ce n'est pas évident. Et pour certains d'entre eux, que ce soit dans un camp ou dans l'autre, ils voient dans la bataille les leurs mourir en face, tués par eux-mêmes ou tués par d'autres. Et là, quand on parle comme ça, on dit c'est la guerre, donc il y a ceux de Médine, ceux de la Mecque, ce n'est pas des gens qui ne se connaissaient pas, c'est des gens qui ont vécu ensemble, des gens qui sont de la même famille pour la plupart, des cousins, des frères, des beaux-frères, etc. Donc ce n'est pas évident. Et c'est d'autant plus pas évident que peut-être Hamdallah ibn Abi Amir, peut-être, Allahu A'lam, on sait qu'il était sincère, mais peut-être qu'il se sentait aussi poussé parce que, à cause de la position de son père, peut-être qu'il sentait ou pressentait qu'il devait faire plus que les autres. Et quel indice nous donne ça? Le fait qu'on a déjà dit que Hanzala ibn Abi Amir, radiallahu anhu, il était... C'était sa nuit de noces, cette nuit-là où il est sorti avec l'armée. C'était le jour de son mariage. C'était sa première nuit avec son épouse, sa nuit de noces. Et quand il a entendu l'appel pour rejoindre l'armée, parce que l'armée partait, il a abandonné le mariage, il a abandonné son épouse, il a abandonné la nuit de noces et il a rejoint l'armée, sans même avoir eu le temps de faire ce qu'on appelle Ruslul Janaba, sans même avoir eu le temps de faire les grandes ablutions. Ajib. Pourquoi ? Il avait une très bonne raison de ne pas participer à cette bataille. C'est le jour de son mariage. Personne ne lui en aurait voulu. Peut-être qu'il se disait, je dois montrer. Personne ne doit penser que je suis comme mon père ou que j'ai choisi le prétexte de mon mariage. Peut-être aussi, c'est possible. Allahu A'lam. Et donc il rejoint l'armée. Et dès le début de la bataille, il cherche à tout prix à décapiter l'armée des idolâtres, en fait. Il se dit, l'étendard, c'est bon, on l'a eu. Il est par terre, il n'ose plus le relever parce qu'il y a 11 personnes qui ont essayé de le relever, ils ont perdu la vie. Donc il dit, pour l'étendard, c'est bon. Donc c'est déjà un coup, un gros coup au moral des idolâtres. Et il faudrait un deuxième coup pour les achever et être sûr qu'on gagne la bataille et qu'il n'y ait pas plus de morts que ça. Parce qu'au final, c'est ce que les musulmans cherchent. Les musulmans n'ont jamais voulu la guerre, hein. Je rappelle que c'est les idolâtres qui sont aux portes de Médine et que les musulmans sont partis à leur rencontre pour éviter qu'il y ait un bain de sang parmi les civils de Médine, comme on l'avait expliqué déjà à plusieurs reprises. Et donc, Hanzala ibn Abi Amir, radiallahu anhu, il se dit, si j'arrive à tuer Abu Sufyan, qui est le chef des idolâtres, c'est tout. Ce sera le désordre et la débandade. Ils vont fuir. Et donc, il traverse les rangs. Il prend le risque Parce qu'Abou Soufiane est au milieu de l'armée, il est protégé par toute l'armée. Il traverse les rangs jusqu'à ce qu'il se retrouve face à Abou Soufiane, radiyallahu anhu, puisque plus tard il se convertira à l'islam, et lui dit, il le provoque en duel, toi contre moi. Et Abou Soufiane répond au duel. Il descend de sa monture. Et donc, des coups d'épée s'enchaînent entre Hanbala ibn Abi Amir et Abou Soufiane. Et à plusieurs reprises, Hanbala ibn Abi Amir radiallahu anhu est sur le point de toucher Abou Soufiane, qui à la dernière minute arrive à se défendre, mais tombe et trébuche, il se relève, et il est sur la défensive. Et donc il est en train de plus en plus de perdre. Et ça va finir, on le voit très bien, quand on voit le match, entre guillemets, on voit très bien comment ça va finir. Hanbala ibn Abi Amir a le dessus. Et ici, un idolâtre, Shaddad ibn al-Aswad. Il voit la scène. Et il voit que Abou Soufiane est mal en point et qu'il est sur le point de perdre ce duel. Il arrive à la rescousse d'Abou Soufiane et de manière lâche, par derrière, il tue Hanbala ibn Abi Amir radiyallahu anhu. Il tue Hanbala ibn Abi Amir radiyallahu anhu. Cet homme, c'est qui ? C'est Shaddad ibn al-Aswad. Shaddad ibn al-Aswad, qui était aussi surnommé ibn Sha'oub. Pourquoi ibn Sha'oub ? Parce que sa mère s'appelait Sha'oub, le fils de Sha'oub. Al-Aswad, c'était son père. Lui s'appelle Shaddad, son père c'était l'Aswad. Donc, dans les textes, nous on le connaît sous le nom de Shaddad ibn al-Aswad, Shaddad fils de Aswad, puisque son père c'était Aswad. Mais les idolâtres avaient l'habitude de l'appeler ibn Sha'oub, le fils de Sha'oub, parce que sa mère s'appelait Sha'oub. Et cet homme, il était aussi surnommé Abu Bakr. Il était surnommé comment ? Abu Bakr. Naam. Et il va avoir, subhanallah, il a deux points communs avec le compagnon Abu Bakr, As-Siddiq radiyallahu anhu. Le premier point commun, c'est qu'il a un de ses surnoms, c'est Abu Bakr, tout comme le surnom du compagnon Abu Bakr, c'est Abu Bakr. Donc ça, c'est le premier point commun. Et le deuxième point commun, c'est qu'à des périodes de leur vie différentes, évidemment, ils ont été mariés à la même femme, qui est surnommée, du coup, pour le coup, elle aussi, Ummu Bakr. Le premier à s'être marié avec elle, c'est le compagnon Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et au moment de partir pour l'émigration, il divorce. Il y a un divorce, une séparation. Et après ce divorce, c'est cet homme, Shaddad ibn al-Aswad, qui est lui aussi surnommé Abu Bakr, qui est parmi ses surnoms, il y a Abu Bakr ibn Sha'oub, donc Shaddad ibn al-Aswad, il se marie avec cette femme qui a été une des épouses d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et c'était un poète, Shaddad ibn al-Aswad. C'est lui qui va s'illustrer à travers sa poésie dans ce qu'on appelle les lamentations, dans les éloges funéraires plutôt, dans les éloges funéraires des morts de Badr. Comme vous le savez, les musulmans vont gagner la bataille, ils ont gagné la bataille de Badr, et ils vont décimer la plupart des notables et des chefs des idolâtres et de la Mecque. Et c'est lui qui va faire leur éloge dans un long poème. Naam. Et ce qu'on peut retenir de ce poème, c'est lorsqu'il dit « وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ مِنَ الشِّيْزَا تُزَيَّنُ بِالسَّنَامِ وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ تُحَيِّينَا السَّلَامَةَ أُمُّ بَكْرٍ وَهَلِّي مِنْ بَعْدِ قَوْمِي مِنْ سَلَامِي يُحَدِّثُنَا الرَّسُولُ أَنْ سَنَحْيَا وَكَيْفَ حَيَاةُ أَصْدَاءٍ وَهَامِي Qu'est-ce que ça veut dire, ces quatre rimes qu'on a choisies dans ce long poème? Parce qu'elles montrent plusieurs choses, c'est pour ça que j'ai choisi ces quatre-là. Il dit « Wa madha bil qalibi qalibi badrin » Et qu'est-ce qu'il y a dans la fosse de Badr? C'est quoi la fosse de Badr? C'est là où ont été enterrés tous les morts des idolâtres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a enterrés. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a gagné la bataille, c'est lui qui est resté sur le champ de bataille. Les perdants, ils ont fui. Qu'est-ce qu'il fait? Pour que les corps des idolâtres ne décomposent pas comme ça à l'air, il les a pris et il les a enterrés dans une fosse, dans une grande tranchée, qu'on appelle Qalib, Qalib ou Badr. Alors que les idolâtres, comme on le verra, qui eux vont gagner la bataille de Uhud, ils vont rester sur le champ de bataille de Uhud, qu'est-ce qu'ils vont faire des morts musulmans? Ils vont, si seulement ils les avaient laissés sans les enterrer, et dire on va les laisser, ils vont décomposer, c'est la nature qui va s'en occuper. Non, ils vont les mutiler, en plus de les laisser. Ils vont les mutiler. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça à la bataille de Badr. Il les a enterrés. À un tel point que quand il est venu récupérer un des corps, le corps de Umayyah ibn Khalaf, il ne faut pas oublier qu'on est dans le désert, qu'il fait très chaud, et que ce n'est pas comme ici. Hein. Quelqu'un qui meurt, même si on ne le met pas au frais, il faut quand même un certain nombre d'heures, surtout s'il ne fait pas très chaud, pour que la décomposition commence. Et s'il fait très froid, il n'y aura même pas de décomposition tout de suite, yani. C'est comme si on l'avait mis au frais. Par contre, dans un désert, dès que le soleil se lève, en une journée, en quelques heures, la décomposition avance très vite. Et en fonction du corps, comment il était, ça dépend de beaucoup de choses, de ce que la personne a mangé aussi, puisque les premières choses à se décomposer, c'est au niveau de l'abdominal, les intestins, etc. Ala kulli hal, le corps d'Umayyah ibn Khalaf avait commencé plus vite sa décomposition. Et donc, quand ils sont venus pour l'enterrer, ils ont vu qu'en le touchant, il commençait à... Il y a des choses qui sortaient, etc. D'ailleurs, la décomposition avait commencé. Donc, qu'est-ce que le professeur Hassan a fait? S'il le tire, si on le prend, qu'est-ce qu'il risque d'y avoir? Déjà, des choses pas belles à voir, des choses pas belles à sentir, que le corps se tombe en morceaux, finalement. Et par respect, malgré tout, malgré qu'il était un grand ennemi et qu'il a fait tant de tort, qu'il a tant persécuté, par respect pour son corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lui, on ne l'enterre pas avec les autres, parce que le prendre jusque, même si c'est quelques mètres, le prendre jusque là-bas, c'est prendre un risque pour son corps. Donc il a dit, creusez en dessous et mettez le sable sur lui pour l'enterrer. Non. على كل حال et donc Shaddad ibn al-Aswad il dit ici dans son poème ماذا بالقليب قليب بدر et qu'y a-t-il dans la fosse de Badr من الشيزة تزين بالسنام من الشيزة الشيزة c'est quoi? C'est les gamelles, les grandes gamelles dans laquelle on fait cuire à manger. Il y en a les chefs idolâtres qui sont morts à Badr, ils étaient connus pour ça. Pour prendre les grandes gamelles, les grandes marmites, mettre la viande de chameau dedans, hein, et offrir à manger aux gens. Non. Et donc, il fait leurs éloges à ceux qui sont morts à Badr en rappelant leurs qualités. Et il dit, « Mada bil qalibi qalibi badrin » Qu'y a-t-il dans la fosse, la fosse de Badr ?« Min ash-shiza tuzayyanu bis-sanami » Et c'est leurs gamelles qui étaient décorées par les bosses de chameau, sous-entendu la viande de chameau. Et ensuite il répète et il dit وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ Qu'y a-t-il dans la fosse de Badr مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ Parmi les danseuses et les buveurs. Les danseuses, ils parlent de quoi? Ils parlent des fêtes. Ils avaient l'habitude de faire des grandes fêtes où ils ramenaient des danseuses pour tout le monde. Ils invitaient toute la ville. Et donc, c'est, entre guillemets, il fait les éloges de ces idolâtres à travers leurs qualités. Ce n'est pas forcément des qualités, mais pour lui, c'est une qualité. Donc il rappelle ça. Rappelez-vous les grandes fêtes qu'il nous faisait, il nous ramenait les danseuses. Min al-qainat, les danseuses, wa sharb al-kirami, et les buveurs généreux. Donc ils buvaient bien comme il fallait, et en plus, ils offraient aux autres à boire. Non. Et ensuite, lui, il parle de ça au moment où il revient de Badr. Lui, il a survécu à Badr, ce poète, Shaddad ibn al-Aswad, qui va tuer à Uhud, Hamdallah ibn Abi Amir, radiyallahu anhu. Et il dit dans cette rime, تحيينا السلامة أم بكر وهل لي من بعد قومي من سلامي أم بكر. Il parle de son épouse, celle dont je vous ai dit tout à l'heure, qui a été une des épouses d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. تحيينا السلامة أم بكر. أم بكر m'accueille en me saluant, en m'envoyant le salut, la paix. وهل لي من بعد قومي من سلامي. Et comment il pourrait y avoir un salut, comment il pourrait y avoir une paix après mon peuple, après les miens, ceux que j'ai laissés derrière qui sont morts. Il n'y a plus de paix. Sous-entendu, ma vie elle ne sera plus jamais paisible. C'est fini. Et ensuite, il dit وكيف حياة يحدثنا الرسول أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهامي. Le prophète, lui, il n'y croit pas. Mais il dit le prophète, en parlant du prophète des musulmans. يحدثنا الرسول أن سنحيا. Le prophète nous informe que nous allons vivre. Quand ? Après la mort. Et il dit وكيف حياة أصداء وهامي. Et donc là, il montre sa mécréance. Et comment pourrait être cette vie, la vie asda'in. L'asda, c'est quoi? C'est les oiseaux de mauvais augure. C'est quoi les oiseaux de mauvais augure? Les idolâtres, il y avait des types d'oiseaux, quand ils les voyaient voler autour d'eux ou au-dessus de leur maison, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, ah, ça c'est un mauvais présage. Il y a un malheur qui va bientôt arriver. Ils étaient superstitieux. Et il y avait un type d'oiseaux comme ça, c'était ce qu'on appelle des oiseaux de mauvais augure. Et c'était ça, l'asda, ce qu'ils appelaient ces oiseaux de mauvais augure. Quand ils les voyaient, ils disaient, il y a un grand malheur qui va arriver, qui va s'abattre sur nous. Donc ils disaient, وَكَيْفَ حَيَاتُ أَصْدَاءٍ وَهَامِ. Et comment pourrait être une vie d'oiseaux de mauvais augure, وَهَامِ. Et l'ham, c'est quoi? En arabe, ça peut vouloir dire deux choses, l'ham. C'est soit le crâne d'un squelette, soit c'est la chouette, le hibou, l'oiseau qui sort la nuit. Parce que ça aussi, c'était un oiseau de mauvais augure chez les idolâtres dans leur superstition. Et en fait, dans leur fausse croyance, ils disaient qu'après la vie sur terre, il n'y a pas de vie, si ce n'est une vie où l'individu se transforme en une chouette, en un hibou, ou en un oiseau de mauvais augure. Et donc, lui, il mélange les deux. Le professeur Sam, certes, il a dit qu'il y aurait une vie après la mort. Mais pas la vie en laquelle croyaient les idolâtres, où les gens ils vont devenir des oiseaux de mauvais augure ou je ne sais quoi. Eux, ils disaient, les oiseaux, les hiboux, les chouettes qu'on voit rôder autour de nous, c'est les morts d'avant. Ils se sont transformés comme ça. Et donc il dit, qu'allons-nous faire d'une vie après la mort si c'est une vie d'oiseaux de mauvais augure et une vie de chouettes, une vie de hiboux? On n'a que faire de cette vie. Le professeur Sami n'a jamais dit ça. Et donc c'est aussi sa manière aussi à lui de dire « Je ne crois pas en tout ça. » Ala kulli hal, donc Hamdallah ibn Abi Amir radiyallahu anhu est tué par cet homme, Shaddad ibn al-Aswad. Et le professeur sallam dira à propos de Hamdallah ibn Abi Amir, les anges le lave. Il est mort et ce sont les anges qui le lavent. Mais personne n'est au courant de pourquoi les anges le lavent. Nous, on le sait parce qu'on l'a dit, on connaît l'histoire. Mais à ce moment-là, personne ne comprend pourquoi les anges le lavent et pourquoi le professeur Sam dit les anges le lavent. Donc les compagnons demandent pourquoi les anges le lavent. Il dit allez demander à son épouse. Peut-être qu'elle sait mieux que nous. En tout cas, ce que je sais, c'est que les anges le lavent. Et quand ils vont demander à son épouse va leur dire, eh bien, quand il a entendu l'appel de l'armée, il a eu peur qu'en restant et prenant le temps de se laver, il raterait l'armée. Et donc, il a préféré partir sans se laver, sans faire les grandes ablutions. Ajib, naam. Et après cela, même si les musulmans... alors, certes, Hamdallah ibn Abi Amir est mort, certes, le compagnon Abdullah ibn Amr ibn Haram est mort, mais les musulmans ont quand même le dessus dans cette bataille. Par aussi les efforts qui vont être faits par un homme, le compagnon Hamza ibn Abd al-Muttalib. Et la prochaine étape, c'est justement l'assassinat du compagnon Hamza ibn Abd al-Muttalib sur le champ de bataille. Dans quelles conditions il va être assassiné ? Qui va s'en charger ? Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Bi-idhnillah et tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.